Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale, Richard Ferrand.
Et merci d'être avec nous, Richard Ferrand, dans ce studio d'RTL. Bonjour à vous.
Bonjour madame.
Une question légère pour commencer, si vous permettez. Sur une vidéo diffusée hier, on voit un adolescent se faire tancer par Emmanuel Macron, à qui il a lancé un « ça va Manu », désinvolte, irrespectueux, le président le recadre, l'adolescent s'excuse tout de suite, mais le président continue. Ma question, c'est est-ce que ça valait cette leçon finalement très premier degré, quoi, un peu pontifiante quand même du président à l'égard de ce grand gamin ?
Bon, je crois que le président a simplement voulu rappeler au jeune homme que voilà, lorsqu'on croise le président de la République, c'était pas personnel, sa remarque. Eh bien, on ne le traitait pas comme un copain, mais comme, après tout, le premier des Français.
Oui, quand on est un président jeune, détendu un peu à la Barack Obama, c'est vrai qu'on suscite ce type de proximité gentille. La réponse ne manque pas un peu d'humour, quand même.
Non, mais il l'a quand même pas engueulé. Il
lui a juste, qu'est-ce que ça aurait été Non, mais si vous voulez, la question qu'on se pose, qu'est-ce que ça aurait été si l'interpellation avait été un peu plus virulente.
Ah bah sans doute que le président aurait été plus virulent. Sans
aussi.
Doute. Mais vous savez, c'est une forme de spontanéité aussi. C'est une des forces d'Emmanuel Macron, c'est de réagir simplement et de manière directe. Moi, c'est comme ça que je l'aime, en tout cas.
Il a eu raison. Depuis un an, est-ce qu'il y a un mot, une déclaration, une décision présidentielle qui vous est légèrement perturbée, voire chiffonnée, Richard Ferrand ?
Pour ce qui me concerne, non. Il me semble que le président de la République tient le cap sur le fond, mais aussi sur sa manière d'être, sur le style, que les Français ont pris note que la France avait à nouveau un grand président de la République en responsabilité, qui se démultiplie, qui au plan national, comme au plan européen et international, donne toute son énergie pour que, au fond, la voix de la France porte à nouveau. Et je vous prie de croire que dans le contexte qui est le nôtre, avec une Europe de plus en plus nationaliste, avec un Trump de plus en plus à la fois isolationniste, mais qui vient se mêler de nos affaires, eh bien, il faut mener ça avec panache et efficacité. Et je crois que le président est à la hauteur des défis de l'histoire contemporaine. Et heureusement, la voix qu'il est là, si je puis dire.
La voix qui porte, dites-vous, la voix parfois qu'on n'entend pas. Vous étiez... Je ne veux pas dire vous êtes. Vous étiez un homme de gauche, Richard Ferrand, pendant des années.
Je le suis toujours, je vous rassure.
Alors, vous l'êtes toujours. Vous étiez au Parti Socialiste, ça on peut le dire au passé. Le président qui refuse, justement, qui reste dans le silence, qui refuse d'accueillir l'Aquarius et qui ne sort de son silence que pour critiquer l'Italie, c'est une juste attitude pour quelqu'un dont...
D'abord, quand il... il faut d'abord se dire une chose. Lorsqu'on parle de l'Aquarius, on parle d'hommes, de femmes, d'enfants qui souffrent, qui quittent leur pays souvent après de passer sous les fourches caudines de passeurs, c'est-à-dire de criminels, de trafiquants de femmes et d'hommes. Il faut tout de même avoir ça à l'esprit. Donc on est... Laissez-moi aller au bout. Donc on est confronté d'abord à cela, et donc on n'est pas là pour faire des cours de géographie ou pour faire des cours de calcul sur lequel réagit le plus tôt. Ce qui est certain, c'est que du point de vue du droit international, eh bien, il incombait à l'Italie d'accueillir ce navire. L'Italie ne l'a pas souhaité. Par conséquent, ensuite, il fallait trouver une autre solution. Mais là
j'entends
encore, c'est pour ça que le président est à Berlin aujourd'hui, pour que justement on trouve avec l'Allemagne, à la bonne échelle, qui est l'échelle européenne, des moyens d'endiguer ces flux migratoires, d'abord en aidant ceux qui sont dans ces pays.
Parce que pour vous, par exemple, quand vos marcheurs, certains de vos marcheurs, Sonia Crimi, bien sûr, on l'a entendu, mais d'autres, Hugues Ranson, vice-président de l'Assemblée, du groupe, pardon, qui aurait préféré que la France soit dans une tradition d'accueil, Sébastien Nadeau, etc., quand ils critiquent, vous êtes de la même façon qu'ici, agacé.
Non, mais je ne suis pas agacé.
Vous avez dit l'enjeu n'est pas de faire une compétition démagogique. Vous dites à l'instant, les concours de géographie, ce n'est pas le sujet.
Non, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut quand même prendre la mesure de ce qui se passe aujourd'hui. C'est que l'Italie, d'un côté, a élu un gouvernement qui veut montrer son hostilité, clairement, à l'immigration, qui aussi a souvent été seule. Et l'Europe n'a pas été assez solidaire de l'Italie. C'est bien pour ça qu'il y a ce mouvement de colère dans ce pays. Mais il ne nous incombe pas, à nous Français, ni de donner des cours de morale aux Italiens. Mais il nous incombe de construire une réponse et pas non plus de se laisser aller à des considérations qui, au fond, n'apportent rien.
les considérations qui consistent à mettre en avant les valeurs de l'accueil, par exemple, ça n'apporte rien.
Mais ces valeurs, madame, nous les portons. Je vous signale que lorsque nous avons voté, et ces collègues que vous citiez l'ont voté, la loi asile-immigration, nous avons rappelé la tradition de la France comme terre d'asile et que justement nous allons réduire les délais pour examiner les droits de celles et ceux qui demandent l'asile. On est aujourd'hui à plus de 16 mois et on va passer à 6 mois.
Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il puisse y avoir un malaise ? Parce qu'il y a des députés qui ne se retrouvent pas complètement aujourd'hui dans l'exécution du programme d'Emmanuel Macron. Sur cette question migratoire, puisqu'ils avaient entendu le candidat Macron encenser Angela Merkel justement pour avoir ouvert ses frontières largement, sur l'équilibre économique et social aussi de ces un an de présidence, Emmanuel Macron peine à incarner le « en même temps ». Vous, est-ce que vous pouvez admettre que ça trouble certains chez vous ?
Ah non, mais attendez, vous savez, quand vous avez un groupe de 312 personnes qui ont des histoires personnelles, professionnelles, politiques, qui sont différentes, car là a été l'intuition fondatrice d'Emmanuel Macron, c'est de dire « rassemblons des Françaises et des Français de toute sensibilité, de toute histoire, dès l'instant que nous partageons l'essentiel. » Et donc, évidemment, qu'il y a du débat, c'est une sorte de désordre créatif, si je puis dire, où les gens s'expriment en liberté. Vous voyez, la grande
débat,
différence dans mon groupe...
Le malaise, c'est plus
dans
que
mon
le
groupe,
débat, vous
on
êtes
parle,
d'accord.
Chez Wauquiez, on vire. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Nous et moi, je rassemble. Ensuite, vous me parlez de cet aspect économique et social, mais quand nous faisons ce que nous faisons en matière d'éducation, en dédoublant les classes, et ce qu'on a fait sur le devoir fait, c'est ainsi que Jean-Michel Blanquer a appelé cette opération. Lorsqu'on vote, comme nous l'avons fait la semaine dernière, une nouvelle loi tout à fait révolutionnaire sur le droit à la formation, pour faire en sorte que chacun ait des compétences qui évoluent. Lorsque le président de la République s'engage sur le reste à charge zéro au Congrès de la Mutualité, lorsque nous sommes en train de réussir Parcoursup, il me semble que nous travaillons à recréer l'égalité réelle.
Il ne fait pas une politique libérale, il fait une politique ultra-libérale. C'est ce que Christian Jacob disait hier soir même dans RTL Soir. On rappelle que c'est votre homologue qui préside le groupe LR à l'Assemblée. Ultra-libéral.
Oui, mais écoutez, qui s'occupe de M. Wauquiez et qui nous laisse faire à la fois une politique qui, en effet, libère les entreprises, libère les énergies, mais protège les individus et pas les statuts. Ce que nous avons dit en permanence, et une politique aussi qui rassemble et qui unit les Français.
Ça fait un an que vous présidez le groupe, vous l'avez dit, plus de 310 députés, certains rues dans les brancards. Dans le Figaro, vous avez évoqué hier votre possible départ fin 2019. C'est la mi-mandat, l'esprit des choses, je vous cite, l'esprit des choses serait que je passe la main. Vous en avez assez ?
Mais pas du tout. Le jour, il y a un an, j'ai été élu président du groupe. Et ce que j'ai indiqué à mes collègues, c'est qu'à mi-mandat, il nous faudrait remettre en question toutes les responsabilités pour permettre à des collègues qui souhaiteraient en prendre... Pourquoi ? Parce que le renouvellement doit être permanent. J'en avais fait un point cardinal de ma candidature à la présidence. J'avais indiqué qu'il faudrait que les présidents de commission, les questeurs, bref, tous ceux qui ont des responsabilités, les remettent en cause, surtout rendent des comptes au groupe, disent ce qu'ils veulent faire, et si le groupe souhaite qu'il continue, continue, sinon on change.
Mais vous êtes le seul à faire ça ? Ou par exemple, comme on l'avait évoqué, François de Rugy, par exemple, président de l'Assemblée, devra lui aussi, comme vous, par principe, remettre son mandat en jeu, quitte à être reconduit, mais quitte à ne pas l'être.
Absolument, mais François de Rugy le sait parfaitement et le fera bien volontiers.
Il le fera bien volontiers.
Oui, il a même eu l'occasion de le dire à une de vos consoeurs dans les colonnes de Libération il y a 2 ou 3 mois.
Et vous, vous pensez qu'il pourrait passer la main ?
Non, mais ça, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on ait cette notion de rendre des comptes et de dire ce que l'on veut faire dans ce qui suit. Voilà, ça s'appelle la démocratie interne, le renouvellement et la transparence.
Avec la possibilité d'être renouvelé soi-même à partir du moment où on remet son mandat sur...
Bien sûr, si les collègues jugent que ce que vous faites...
Donc l'hypothèse de votre départ il y a un an et demi est posée comme celle de François de Rugy. C'est ça.
Comme l'ensemble de celles et de ceux qui ont des responsabilités, pas plus pour l'un que pour l'autre.
Vous avez ironisé, pour revenir sur quelques instants sur le groupe LR, sur la nomination de Jean Leonetti dans un tweet hier. Il remplace Virginie Calmels au titre de vice-président de LR. Bien connu pour ses travaux et réflexions sur la fin de vie, nul doute qu'il pourra éclairer LR sur son avenir. Vous n'êtes pas très charitable avec l'opposition.
Non, je suis taquin parfois, c'est vrai. Mais c'est parce que, si vous voulez, je trouve qu'un mouvement politique qui a comme mode de fonctionnement l'exclusion de son numéro 2 après l'avoir quelques mois après l'avoir embauché. Oui, mais enfin, vous savez, la discipline, elle fonctionne bien lorsqu'elle est consentie après un certain nombre de discussions et que au bout du compte, il y a un rassemblement. Mais ce n'est pas par l'exclusion que vous rassemblez.
Merci beaucoup, Richard Ferrand, d'avoir été avec nous. D'ailleurs, Jean Leonetti sera à votre place demain matin dans ce studio d'RTL.
Vous le saluerez pour beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cet homme.
Ah bah quand même, bonne journée.
Vous êtes taquin, mais vous avez du respect pour votre confrère. Avec une Europe nationaliste et un Trump isolationniste, heureusement que le président Macron est là, vient de nous dire Richard Ferrand. Sur le plan social, notre politique est une politique d'égalité réelle. Merci beaucoup à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.